Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Professeur, écrivain, critique littéraire, directeur littéraire de collection, directeur de revue et éditeur français, compagnon de route des surréalistes dès 1932, résistant lié à David Rousset, Maurice Nadeau fit connaître après la guerre tous les écrivains qui comptent encore aujourd'hui, Bataille, Michaud, Genet, Claude Simon et tant d'autres. Engagé politiquement, mais surtout du côté des livres, Maurice Nadeau, qui nous a permis de découvrir quelques-uns parmi les plus grands auteurs du XXe siècle, devint éditeur en 1977. Il fut celui qui révéla tant de livres au XXe siècle. Cette première émission de la série À voix nue, due en 2000 à Françoise Esteb, nous permet de prendre un contact vivant avec un des très grands témoins du XXe siècle. Maurice Nadeau est mort en 2013, à l'âge de 102 ans.
Je sais pas trop moi ce que je suis, c'est ça le malheur. Et... Enfin, le malheur, et c'est comme ça, enfin, c'est le sort de toute personne qui se... s'interroge un peu. Alors, est-ce que je suis l'homme de ma fonction? C'est en général ça dans la société actuelle. On est ceci, on est cela. Est-ce que je suis éditeur? Éditeur, si j'étais éditeur, j'éditerais pas 7 ou 8 livres par an et ceux qui me plaisent, je prendrais une entreprise, je la ferais fonctionner, produire, etc. Bon, est-ce que je suis directeur de journal? Oui, mais le journalisme, ça m'a jamais, en tant que tel, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Est-ce que je suis écrivain? On peut pas dire. Un écrivain, ça écrit. Bon, que j'ai pu être 3 ou 4 livres, est-ce que ça suffit pour... Enfin, voilà. Alors, réduit à la fonction, je peux additionner tous ces personnages. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Et dans chacun de ces personnages, j'ai dit non, je suis pas celui-là. J'échappe à cette définition. Alors qu'est-ce que je suis? Je sais pas.
Cette semaine, au cours de nos 5 entretiens, nous allons évoquer, Maurice Nadeau, tous vos personnages, qui sont les facettes d'une même passion, d'une même révolte, d'une même quête. Vous déclarez dans vos mémoires littéraires, grâce leur soit rendue, que le fonctionnement de votre mémoire est très hasardeux. Se souvenir, pour vous, c'est un exercice périlleux. Ça paraît logique, parce que comment en effet se souvenir de tout lorsque l'on a publié des milliers de livres? Vous avez édité et fait connaître Malcolm Lowry, Gombrowicz, Chacha, Pérec. Comment se souvenir de tout lorsque l'on a rédigé des montagnes d'articles pour Combat, pour L'Express, L'Observateur, Le Mercure de France? Lorsque l'on a également été directeur de publication, Les Lettres Nouvelles, aujourd'hui La Quinzaine Littéraire? Depuis la fin de la guerre, depuis 45 environ, vous vous tenez aux avant-postes de la création littéraire par votre activité de critique et par la découverte et l'édition d'écrivains majeurs. Puis bien entendu, il faut citer vos ouvrages personnels, dont l'histoire du surréalisme et le Flaubert écrivain, qui vous a valu le grand prix de la critique. Mais bien entendu, vous êtes très réticent lorsqu'il s'agit de parler de vous. Alors je vous propose de fouiller dans ce que vous appelez votre caisse, cette caisse miraculeuse que vous avez sauvée d'un sinistre dans une maison de campagne et qui est une malle au trésor de documents, de lettres, qui sont les strates de votre vie et des éclats de mémoire. Alors dans votre caisse, Maurice Nadeau, votre précieuse caisse, voilà, une lettre de Beckett. Ah,
je la lis. Cher Maurice Nadeau, c'est quoi ça? 6 rue des Fabriques, Paris 15e, 19-10-54, vous donnez les dates. Hein. Je m'excuse d'avoir tant tardé à vous répondre. J'ai passé 4 mois affreux à Dublin. Et viens seulement de rentrer, moins vif que mort. Ah oui, si j'avais le moindre inédit potable, je m'empresserais de vous le donner. Or je n'ai toujours rien. What ne vaut rien? Et en français, moins que rien. Je regrette de l'avoir fait éditer et ne me pardonne pas de l'avoir laissé traduire. Je me sens plus loin que jamais de pouvoir écrire. Non che l'esprime il desiderio a morte. Ou presque. Faudrait traduire peut-être. Nunc elespe me il desiderio e morte. Enfin, on voit que c'est pas gay. Ou presque. Si jamais ça me reprend au Hélène, c'était les lettres nouvelles où je suis demandé probablement un texte. La primeur, c'est-à-dire à vous, car je n'oublie pas. Croyez, cher intérêt, etc. C'est gentil, hein.
Bah, c'est surtout totalement désespéré. C'est un peu l'impasse.
Oui.
Alors, que
mais
répondez-vous ?
Les lettres de Beckett que j'ai, c'est un peu toujours ça. Il est toujours dans l'impossibilité d'écrire, de vivre, de faire quelque chose.
S'il vous plaît, lisez-nous cette lettre de Beckett.
Le 5 septembre 1953. Mon cher Maurice Nadeau, j'ai lu avec émotion votre article sur l'innommable dans les lettres nouvelles, dans un moment où mon travail ne valait plus rien. À vous lire, l'envie renaît d'essayer encore. Elle n'ira peut-être pas loin, mais comprenez ce que cela signifie pour moi et la mesure de ce que vous me donnez. Le il a été, devient, il sera, avec moi jusqu'à la fin. Je ne peux même plus vous remercier, je peux seulement vous envoyer mon affectueuse amitié. C'est gentil, hein ? Formidable, non ?
Mais c'est vous, Maurice Nadeau, qui avez fait connaître Beckett au public français ?
Eh bien oui, il se trouve que c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Il y avait son écriture, hein. Avec joie, c'est que... Alors à propos de Beckett, ça c'est très curieux. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui est à peine croyable. Il m'a confié un manuscrit en me disant ne le publiez pas. Bon, je le garde. Viennent me voir des Américaines, deux dames qui font des études sur Beckett, des trucs, des grosses têtes. Enfin bon, elles font. Machin, etc. Je fouille dans ma caisse, qu'est-ce que je trouve ? Le manuscrit de Beckett, qui s'appelle Eleutheria, c'est une pièce de théâtre, complète. Il m'avait dit de jamais la publier, donc j'ai gardé. Ces dames se prennent, enfin bon, elles me disent, est-ce que vous pouviez me donner une photocopie ? J'ai la bêtise, ou enfin la gentillesse, je ne sais pas, de leur donner la photocopie. Qu'est-ce qui se passe ? Elle publie en Amérique. Elle publie en Amérique la pièce, et le Eleutheria qui est en français. Ça revient ici, Lindon dit, tiens, Beckett, c'est moi, etc. Il a repris la pièce, il l'a publiée en français. Voilà, ça date il y a 3-4 ans, ça, cette histoire. C'est bizarre, non ? C'est des histoires.
C'est d'une naïveté incroyable, quand même, laisser partir un inédit de Beckett.
Mais la naïveté aussi, c'est de me confier ça, en disant ne le publiez pas. Pourquoi il me l'a confié, s'il ne voulait pas que ce soit publié ?
Non, mais bien sûr, mais...
C'est un cadeau qu'il me faisait, quoi. Un cadeau, c'était gentil. Et moi, c'est ma bêtise d'aller dire que j'avais une pièce de Beckett. Mais comment, quand Beckett est mort, quand on s'occupe de lui, quand il y a des thèses, des colloques, des machins, je suis invité là à Berlin pour septembre pour un colloque sur Beckett. Ah, ben il n'y en a plus tellement qui l'ont connu. Alors c'est une bêtise que d'avoir donné ça à ces dames. Enfin, quoi,
certainement ça, oui. Hein, mais alors il fallait la publier vous-même.
Mais j'ai pas le droit, moi.
Par respect de la parole donnée ?
Je n'ai pas le droit parce qu'il a un éditeur qui est Jérôme Lindon. Jérôme Lindon a tout Beckett. Beckett a toujours tenu à ce qu'il soit publié d'abord dans les lettres nouvelles, mais dans la revue, jamais en livre. Mais parce que ma bêtise est déjà ancienne, elle continue, mais elle était ancienne, c'est que sa femme était venue me proposer de publier Beckett en livre. Et j'ai eu 3 pages de Beckett, puis je ne me suis pas décidé. C'est ensuite qu'il est allé trouver Lindon, et qu'il a trouvé un éditeur, et tant mieux, un excellent éditeur, très bien, et qui a été l'éditeur de Beckett. Mais Beckett, en se souvenant de ce que j'ai écrit le premier article sur son livre, sur ce qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, Malone meurt, non, que moi c'était son nom. Enfin, un livre qui avait paru chez Bordas, un éditeur qui a disparu, qui est un éditeur de livres scolaires. Et j'ai publié un premier article dans Combat sur ce livre. J'avais été complètement bouleversé par ce bouquin, j'en parle. Et depuis, Beckett m'avait voué une amitié jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est très curieux. De sorte qu'il m'avait dit, c'est vous qui aurez toujours mes premiers textes. Et il me les a toujours donnés. Et j'ai terminé les lettres nouvelles sur une pièce de Beckett, illustrée par Maurice Henry sur la couverture. C'est fin de quelque chose ou fin de... etc. J'ai terminé ma revue comme ça, avec cette pièce de Beckett. C'est beau ça, tout ça. Hein.
Oui, mais pourquoi avez-vous hésité lorsqu'il vous a donné un texte et puis finalement vous avez trop attendu et Jérôme Lindon l'a publié. Pourquoi avez-vous hésité à ce moment-là?
Ben, je ne sais pas. Ça fait partie de cette caisse. Il y a toutes sortes de choses, des correspondances, des textes, etc., que j'ai accumulés parce que, bon, tout ça, je voyais que ça, c'était important. Ce sont des amis, ce sont des gens que j'admirais, etc. Je mettais tout de côté. Mais finalement, vient le temps où il faut regarder un petit peu ce qu'on a, et alors on s'aperçoit qu'on a des tas de choses. Alors pourquoi je n'avais pas publié? Parce que je ne savais pas, même pas qu'il me l'avait donné. Je l'avais oublié qu'il me l'avait donné.
Mais vous êtes très brouillon, Maurice Nadeau.
Oui.
Oui.
Oui, ben, qu'à regarder.
Depuis toujours?
Hélas.
Mais en même temps, pour être éditeur, pour être directeur de revue littéraire comme vous, il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup de cohérence, il faut beaucoup d'opiniâtreté.
Quelle erreur!
Ah bon?
Tout ce que j'ai publié, c'est un peu par hasard. Ça vous étonne, non? Un peu par hasard, oui. Parfois tout à fait par hasard.
Un peu par hasard, oui.
Par le hasard des rencontres. Malcolm Lowry, par exemple, bon, c'est un des grands textes que j'ai publié. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Hein. Comment ça s'est fait? Ben, j'ai rencontré Clarisse Francillon, qui était son amie et traductrice, qui me dit, il y a un écrivain tout à fait, un américain tout à fait extraordinaire, il faudrait le publier en français, est-ce que vous ne pouvez pas le publier? Ben, je dis, bon, il faut, etc. Il a déjà été traduit, bon, ah bon? Alors je vais regarder la traduction, parce que elle me dit, c'est un écrivain difficile, il faut en plus, bon. Alors, bon, je regarde le texte, puis j'ai dit, en effet, il a été traduit, mais sa traduction a été refusée par tout le monde. Ah! C'était refusé par tout. Oui, ça a été donné par Gallimard, par Max-Paul Fouché. Ils n'ont pas voulu. Vous pourriez peut-être, vous, je vous assure que quelqu'un... Bon, alors, je lis, je regarde, je lis la traduction. Ben, voilà un hasard quand même. En plus qu'elle m'a laissé, alors elle m'a légué, elle vient de mourir, elle m'a légué tout ce qu'elle avait de Malcolm Lowry, alors je découvre des tas de choses.
Inédite?
Non, pas inédite, mais c'était une correspondance... Plus un livre que j'ai publié, oui, qui était à moitié inédit, enfin bon. Alors je veux dire, ça c'est le hasard, Gombrowicz c'est le hasard. Et j'avais un ami polonais français qui s'appelait Jelenski, qui est très connu, et qui me parle de cet écrivain polonais, bon...
Mais c'est pas vraiment le hasard. Le hasard, c'est la rencontre.
Oui.
C'est la proposition.
Oui.
Bon, mais le hasard, après, il n'y a plus de hasard à partir du moment où vous acceptez. Ça, on n'est plus dans l'ordre du hasard.
D'accord. Mais les livres, je n'ai jamais cherché d'auteur. Jamais. Ils sont tous venus à moi. J'y peux rien, c'est comme ça.
Alors là, je tombe sur une lettre de Samuel Beckett.
Oui,
que...
encore.
Oui, encore Beckett, tenez. Un peu alerte.
15 novembre 56. C'est ça. Je vois plus ce qui c'est. L'article de Pichon me semble très bien. Cher ami, l'article de Pichon me semble très bien. Alors Pichon, c'était un auteur que j'ai publié chez Coréa et qui avait dû écrire un article sur Beckett que j'ai publié. 15 novembre 56, ça devait être en quoi? je ne sais plus, l'observateur peut-être, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai compris. Ah, ça, c'est la modestie de Beckett. Je vais le relire. Bon, ça ne veut pas dire que l'article était très bon, donc. Voulez-vous qu'on se tape un scotch ensemble vendredi prochain à la closerie des Lilas, à la closerie à 6h30. Je vous rapporterai l'article. Je ne sais pas si je pourrais vous donner le mime ou le mème, puisque Lindon veut le sortir en même temps que fin de partie. Je lui en parlerai, mais j'aurai autre chose à vous proposer. Pardonnez-moi pour Eleutheria. Je suis un dégueulasse. Si vendredi vous convient, pas la peine de confirmer. Amitié. Il y a beaucoup de trucs dont je ne me souviens pas là-dedans. Hein. Sauf qu'il m'a confié enfin ce manuscrit, en effet, Eleutheria. Alors pourquoi dit-il je suis un dégueulasse? Parce qu'il m'a dit de ne pas le publier. Alors il me le confie et il me dit de ne pas le publier. Voilà, ça doit être ça.
Ah, c'est celui-là?
Ah oui.
Qu'il vous avait demandé de ne pas publier, que vous avez confié aux deux Américaines?
Ah oui, mais 50 ans après, écoutez, oui. Hein. Des gens qui travaillent sur un auteur, il faut falloir faciliter le travail en général.
Vous êtes généreux? Très généreux.
Je ne sais pas. Je ne fais pas exprès, probablement. Enfin, non. Non, je ne sais pas. Donc, on me demande des choses, mais il y a beaucoup de jeunes gens qui ne veulent pas se fatiguer beaucoup. Alors, ceux-là, non, pas toujours. Hein. Qui me demandent des choses que leur faire leur devoir de... leur truc de maîtrise, ou machin comme ça, non, bon, non, j'ai pas le temps, je veux bien, non. Alors parfois ils forcent la porte, ils viennent, alors là je me laisse faire, évidemment, ça arrive. Enfin bon, autre chose.
Alors vous venez de nous dire, Maurice Nadeau, je n'ai jamais cherché d'auteur, on m'a toujours proposé.
Oui.
Dès le début, c'est vrai ça, dès le début?
Oui, enfin je cherchais des auteurs pour la revue, pour les lettres nouvelles. Et dès le début, non, oui, comment ça a commencé? Ben oui, ça a été quand j'ai publié l'univers concentrationnaire ou les jours de notre mort, c'était un ami qui revenait des camps et qui m'a donné son livre, publié, c'était le premier livre que j'ai publié, je crois, bon. Ensuite, il y a eu Robert Antelme, mais je ne l'ai pas publié parce que je n'ai pas eu les moyens à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a eu après tout, oui, enfin, je ne vois pas... ce sont des gens qui me proposaient, ou alors par le... Si, c'est vrai, par exemple, je lisais la presse étrangère, américaine, anglaise, allemande, et quand je voyais un livre qui m'intéressait, je faisais une demande, quand même, à l'agent, ou Chacha, je l'ai eu comme ça, par une demande à l'agent qui s'occupait de lui... John Hawkes, qui est un Américain, je crois que j'ai eu aussi par une agence. Enfin non, j'exagère en disant que... Non, mais ça c'était pour les étrangers. Pour les Français, ils venaient naturellement, puisque enfin, ma politique qui n'a pas changé était d'accueillir tout le monde, tous les jeunes qui venaient. Bon, je vais un jour, pour les lettres nouvelles, où défilaient tous les gens qui voulaient, ou au Mercure de France, où j'étais un moment, bon... Madame Simone Gallimard appelait ça le confessionnal, c'est l'ancien bureau de Léoto. Les gens venaient, se confessaient, repartaient, ils allaient suicider ou ils allaient écrire, ils allaient... Enfin, vous voyez, c'était ça, quoi, bon.
Ouais. Enfin, vous avez publié des textes que personne ne voulait publier.
C'est arrivé, oui, en général, c'était ça.
Donc ça, c'est pas le hasard. Alors, comment appelle-t-on ça?
Ça, c'est pas le hasard, mais je veux dire, c'est les gens, une fois qu'ils avaient fait le tour... D'abord, ils allaient voir Gallimard, ensuite ils allaient voir Le Seuil, ils allaient voir, etc. Puis, ben, on les publiait pas, alors ils venaient me voir, ils disaient, tiens, lui, peut-être, on sait pas. Or, il se trouvait que c'était des écrivains importants, que c'était Perret, que c'était Rinaldi, que c'était Bianciotti, que c'était beaucoup, beaucoup d'autres, enfin. Parfois, j'étais en compétition avec d'autres. Par exemple, Butor me donne son premier livre, je le prends et puis il me dit « Ah ben excusez-moi, je viens de le donner aux éditions de Minuit, ils le prennent. Ah ben vous préférez, bon très bien, enfin, les préférences, très bien. Enfin, » mais c'était vers moi qu'on venait. Bon, qu'on venait, qu'on vient encore d'ailleurs. Ah, qu'on vient encore, parce que la quantité de manuscrits que je reçois défie mes capacités de travail. Actuellement, je suis en train d'examiner les manuscrits qui sont arrivés en novembre 99. Vous vous rendez compte, les gens ont de la patience d'attendre.
Bon, c'est pas très long pour un éditeur.
C'est pas très long, mais ça fait 4 mois quand même. Ouais. Oui. Là, c'était rapide. Il y en a qui attendaient depuis un an. Mais enfin, ça, c'était quand je... Bon, enfin, bref.
Et vous lisez systématiquement tous les manuscrits que l'on
vous
adresse ?
Je lis systématiquement parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai eu des lecteurs dans les maisons d'édition où je suis passé, mais ça c'est un autre chapitre. Hein. Les maisons d'édition où je suis passé, surtout dans les langues étrangères, bon, etc. J'ai des lecteurs. Mais finalement, il faut décider, il faut prendre. Hein. Tu prends ou tu ne prends pas. Bon, tu prends, alors il faut lire. Il n'y a pas d'autre solution. Et même en anglais, où je lis un peu, en allemand, je lis un peu, je me suis décidé moi-même, enfin, toujours, oui.
Donc, on sait que si on envoie un manuscrit, c'est vraiment Maurice Nadeau qui le lit. Il le lit vraiment et il répond en connaissance de cause.
Sans... Oui, c'est sûr. Mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Enfin, bon, si on... il paraît, j'entends dire qu'on peut faire autrement, mais je ne pourrais pas faire autrement. Mais je publie peu, hein. Je ne suis pas une grosse maison, hein.
Alors, vous venez de citer Georges Perec.
Oui.
Maurice Nadeau, alors justement, dans votre caisse miraculeuse, voici une lettre de Georges Perec.
Qu'est-ce qu'elle a trouvé encore ? Chasseur Georges Perec, CI 18e RCP, compagnie 2e section, candide. Oh, qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Pau Basse-Pyrénées, 1er février 58, 26e jour. Cher monsieur. C'était pas encore les grands rapports, hein. Bon. Marché, courir, sport, technique de combat, corps à corps, armes blanches, PM, FM, grenade, camouflage, le 2 et pacifique civil que j'étais se transforme petit à petit en un grimaçant combattant de commando. Je passe sous silence le contexte idéologique, l'idéal du para. J'en parlerai quand je n'y serai plus. À ce propos, évitez en me répondant d'utiliser une enveloppe en tête des lettres nouvelles. Il ne faut pas grand-chose pour être suspecté de communiste avec les inconvénients qui sont ordinairement attachés à une telle renommée. Un climat assez étonnant règne ici, on s'y fait, j'accepte ma nouvelle condition, etc. Bon, je ne continue pas. Hein, ouais. Il vient d'être mobilisé. Et je l'ai connu en effet à ce moment-là. Il ne m'avait pas encore donné les choses. Hein. Il était venu aux lettres nouvelles, comme ça, pour parler parler de cinéma. Il voulait faire des articles sur le cinéma. Je lui ai dit, bon, asseyez-vous, enfin bon, on verra. Et il m'avait donné quelques articles, puis ensuite il a parlé des livres, etc. Et il ne m'avait pas encore donné de manuscrit à ce moment-là, mais on avait eu des rapports chaleureux, quoi. Je voyais, c'était un petit gars gentil. Il était gentil, timide. Je l'appelais, je disais, ah, voici Perec. Perec, il me disait, bon, Perec, je mets pas d'accent. D'accord. Et c'est après, il m'a écrit quand il était au régiment, quand il était mobilisé, il a fait son service militaire. Et c'est après, bien après, qu'il m'a donné son manuscrit, mais qui avait été refusé par beaucoup. Les choses avaient été refusées, bon. Je ne donne pas les noms, etc.
Mais vous aviez rencontré Georges Perec avant son service militaire. Oui. Il s'était présenté à vous. Alors, vous le décrivez dans vos mémoires littéraires, Maurice Nadeau, comme quelqu'un de très, très bloqué, en fait, très intériorisé, très timide, et ayant beaucoup de difficultés pour écrire.
Il n'osait pas parler, même.
Ah oui.
Il ne parlait pas. Oui, ayant beaucoup de difficultés pour écrire, en effet.
Mais alors, comment avez-vous perçu chez lui, une possibilité d'écriture ou quelqu'un qui avait un talent possible ?
Ben, Je ne sais pas. Je fais énormément confiance aux gens, surtout aux jeunes. Il en est défilé pas mal et il continue d'en défiler pas mal dans mon bureau. Mais je vois assez vite s'il y a quelque chose que je dis, bon, il y a quelque chose ou il n'y a rien.
Mais à quoi le voyez-vous ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y en a qui ont passé, je vois tout de suite, ça ne marchera pas, parce que, bon, il y a le côté comme ça, il y a le côté comme ça, qui n'est pas plus drôle, hein. Il y a les renfermés, les discrets, les machins, c'est pas une raison pour se fier à eux, hein. Puis il y a le côté spectaculaire, il y a le côté fanfaron, il y a le côté, c'est moi qui... Bon, grosse mécanique, bon, ça aussi non plus ça va pas. Je sais pas, il y a une certaine façon, au fond, ça se mesure, j'ai dit, asseyez-vous, écrivez. Enfin bon, c'est ça, prenez un livre, vous me rapportez un article, on verra. Et d'après ce qui est écrit, je vois dont il s'agit. Non mais c'est vrai, assez vite. Je me trompe aussi, ça arrive, je me trompe, enfin bon, ça va. Pas tellement quand même.
C'est Perret qui vous a écrit justement un jour avant de partir au service militaire. Il vous disait qu'il avait entrepris des articles qu'il n'arrivait absolument pas à mener à bien. Et donc il était totalement bloqué du point de vue de l'écriture. Et vous avez continué à lui faire confiance.
Oui, parce qu'il me semblait que c'était quelqu'un d'intéressant. Comme pour... Sur quoi je me basais, j'en sais rien. Les rapports, enfin bon, je sentais que c'était un jeune qui cherchait quelque chose à dire, il savait pas quoi, il savait pas encore quoi. Bon, faut attendre, il faut voir, et alors à ce moment-là, je lui ai écrit, j'ai répondu à ses lettres, et je lui ai dit, lisez, faites des lectures, quels auteurs vous lisez. On apprend à écrire, c'est pas comme ça, ça vient pas du ciel, c'est à force de lire, de voir, de connaître, d'être touché par des auteurs, d'apprendre un métier, au fond, une technique, c'est comme ça que vous y arriverez. Et le sens des lettres que je lui écrivais, j'en ai vu publier, je ne sais pas où, une lettre qu'on avait retrouvée de moi, comme ça, c'était une lettre de Papagato, c'est une lettre de... J'étais instituteur dans mes jeunes temps, hein. Je sais comment les jeunes, je connaissais les enfants, je connaissais les adolescents aussi, parce que j'ai été pion, j'ai été professeur ensuite. Je connais les jeunes gens, je savais à peu près, ça se voit assez vite, je crois. Mais c'est un pari, hein. C'est toujours un pari. Hein. J'ai misé sur des gens qui n'ont rien donné, j'ai publié même des premiers ouvrages qui n'ont jamais été suivis d'autres. Bon, alors on dit, je me suis pas trompé, j'en sais rien. En général, tout le monde a quelque chose à dire et le dit tout de suite. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur des gens qui sont pas écrivains, qui veulent tout dire dans un premier livre. Alors parfois, c'est arrivé. Julia qui est devenu peintre maintenant, bon, il avait tout dit dans son premier livre. Il en a publié ensuite 2, 3, 4, bon, c'était bon. Il rabâchait. Bon, alors, c'est ça, avoir assez de maîtrise en même temps, et c'est difficile pour un jeune homme d'avoir de maîtrise sur soi pour ne pas tout dire, pour essayer de faire quelque chose à partir de soi, bien sûr, mais à partir du monde, à partir de ce qui existe, à partir des relations qu'on peut avoir, c'est-à-dire ne pas être... Parce que c'est ça le défaut de tous les premiers manuscrits que je reçois, ce sont tous des narcissiques, mais l'écrivain est un narcisse, par définition, c'est lui qui s'intéresse à lui, mais s'il ne sort pas de lui, ça donne rien, c'est ça la question. Alors il y a une technique, il y a une connaissance, il faut quand même lire, il faut quand même savoir ce qui a été publié avant vous, et il faut quand même être dans un monde où on vit, savoir on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Enfin, il y a toutes sortes de conditions à remplir. Bon, alors ça se voit pas à vue de nez, bien sûr, mais quelqu'un qu'on reçoit, il a beau être timide, il a beau être au contraire fanfaron, on voit tout de suite s'il y a de l'étoffe, comme on dit, s'il y a quelque chose qui va venir. Bon, Perec, j'ai eu l'impression, mais les choses, par exemple, qui étaient son premier manuscrit et qui a eu le Renaudot tout de suite, ça a été un succès formidable, mais c'était pas quelque chose qui était... J'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai senti que c'était nouveau. Mais je lui ai dit, vous plagiez Flaubert. J'étais en pleine étude de Flaubert. Vous plagiez l'éducation sentimentale, ça va pas. Il faut trouver un ton à vous, quelque chose qui soit de vous. Alors il est revenu 3 mois plus tard. Il avait changé sa fin, tout ça. Bon, c'était un livre. Ça existait une œuvre. Alors c'est ça que ne comprennent pas toujours les jeunes actuellement. C'est qu'une œuvre, ça a un début, un commencement, une fin, c'est quelque chose qui est bouclé, c'est quelque chose qui existe, c'est un objet.
C'était À voix nue, Maurice Nadeau s'entretenait avec Françoise Estève, Réalisation Pierrette Perronneau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 mars 2000. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à volonté en vous rendant à la page des nuits sur franceculture.fr.
Died. Her weakness is strength, she's unable to cry.